Bonjour.
Здравствуйте.
Привет. Добрый день.
Bonjour.
Guten Tag.
Hola.
Hi.
Salam alaikum.
Solidaire. Vendredi 10h-11h sur RPL en partenariat avec l'IEN Coopération.
Bonjour à tous et bienvenue sur RPL. Je m'appelle Juliette et je suis ici avec Zia.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission solidaire, nous allons vous parler d'éducation à la citoyenneté. Bonjour Aurélie Kopitch.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice engagement jeunesse et démocratie participative à la Ligue de l'enseignement. Vous serez notre invitée tout au long de l'émission. Pouvez-vous vous présenter ?
Alors, tu viens de le dire. Donc, je suis Aurélie, je travaille à la Ligue de l'enseignement depuis plusieurs années. Et du coup, à la Ligue, je m'occupe de plusieurs dispositifs, notamment l'accompagnement des juniors associations, des volontaires en service civique et puis de plusieurs choses dont je parlerai au cours de l'émission.
Pour mieux comprendre ce qu'est l'éducation à la citoyenneté, nous avons été dans la rue, on écoute les passants.
Comment apprend-on aux enfants à être citoyens, selon vous ?
En leur apprenant déjà ce que c'est que le respect et à dire bonjour, merci, au revoir.
En essayant de respecter les autres, voilà, il y a des lois à respecter, les gens à respecter, essayer d'aider les autres.
Par l'éducation, en leur apprenant la politesse, le respect des autres, des choses de base, quoi.
On apprend par quelques petites règles à droite à gauche, à être poli, à être propre, à ne pas mettre ses papiers partout et puis à respecter les gens, voilà.
Alors je pourrais rajouter dans l'éducation et les citoyennetés, c'est aussi par exemple respecter tout ce qui est panneaux de signalisation, tout ce qui est poubelle, ne pas jeter ses déchets par terre.
Est-ce que vous avez un exemple d'intervenant dans l'éducation à la citoyenneté ?
Alors nous, on a dans l'école de ma fille, on a un policier qui vient tous les 15 jours expliquer un peu tout ce qui se passe au niveau de la sécurité dans la rue, se faire attention à ne pas se faire prendre par des gens dans la rue. Enfin, voilà.
Les intervenants, il peut y avoir des pompiers, il peut y avoir des policiers, il peut y avoir des retraités, il peut y avoir toutes sortes de gens comme ça. Voilà.
Bah, les profs d'éducation civique.
Les mairies sont engagées déjà. Les institutions sont engagées. Mmh. Ouais, les collectivités locales.
Vous en connaissez, vous, personnellement ?
Je sais qu'à la mairie de Lille, il y a un certain nombre d'élus qui agissent.
Selon vous, qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté, du coup ? Est-ce que vous auriez une définition à donner ou quelque chose ?
Alors, les grands mots, mais l'écoute de l'autre, la connaissance de l'autre, d'être conscient qu'on vit en collectivité, qu'on vit avec des différences.
Et Juliette, qu'est-ce que c'est l'éducation de la citoyenneté ?
Elle permet d'apprendre, dès le plus jeune âge, à vivre ensemble dans notre société, à respecter les autres, son environnement, connaître ses droits et devoirs. Il s'agit de préparer l'enfant à devenir un citoyen responsable et engagé dans la société. Mais concrètement, comment nous enseigne-t-on à devenir citoyen ?
Eh bien, il y a bien sûr l'école qui permet d'apprendre les valeurs de la République et les règles de vie pour bien vivre ensemble. L'association Essor se propose d'intervenir dans les établissements scolaires de la métropole lilloise pour sensibiliser les enfants à la citoyenneté. On écoute Camille Ribier, chargée d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale à Essor, au micro de Cerise et Laure.
Une asso de solidarité internationale qui est basée à Marc-en-Barœul. Donc c'est une ONG qui a été créée en 1992, qui intervient dans trois domaines. L'éducation, de la petite enfance à l'adolescence, la formation et l'insertion professionnelle et le développement agricole. Et donc les activités d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale font partie de l'éducation.
Et quel est votre rôle à vous dans l'association ?
L'idée, c'est de pouvoir coordonner les actions qu'on mène principalement auprès des écoles dans la métropole lilloise. Alors ça peut être les écoles, ça peut être aussi le grand public, les universités ou même des accueils de loisirs ou maisons de jeunes. Et de pouvoir, avec ces différentes structures, réfléchir à des ateliers thématiques ou... ou pas forcément thématique, mais qui vise à susciter la réflexion pour le public destinataire et en s'appuyant sur l'expérience d'Essor. Donc nos interventions, les pays dans lesquels on intervient depuis de longues années et les secteurs où on a des savoir-faire, donc développement agricole, formation, insertion professionnelle et éducation.
Quels sont, du coup, les différents pays où vous agissez ?
Alors, il y a le Brésil, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Tchad et le Congo. Brazzaville et la France.
Qu'est-ce que Essor propose sur l'éducation à la citoyenneté ?
Ben, en fait, l'idée, c'est vraiment de partir de la demande des personnes qui nous contactent et de voir comment on peut mêler donc l'expérience des sorts et le thème qu'on nous a demandé d'aborder. Donc par exemple, en ce moment, il y a la question de l'accès à l'eau qui est dans les programmes de 5e, que ce soit en SVT ou en géographie. Donc il y a différents professeurs qui nous ont contactés pour dire, nous, on aimerait bien avoir une intervention de quelqu'un d'extérieur à l'éducation nationale et qui permette de comprendre les enjeux au niveau mondial et pas seulement au niveau français, avec des exemples concrets. Et donc là, dans ces cas-là, on réfléchit à un atelier qui peut rentrer dans le cadre des programmes scolaires, tout en s'appuyant sur l'expérience d'un projet qui avait eu lieu en assainissement et sur les projets d'éducation, sur l'hygiène aussi auprès des enfants et des adultes. Et on essaye de mettre en place un atelier d'une à deux heures qui mêle à la fois jeu, réflexion et prise de notes pour les élèves pour qu'ils puissent compléter leur cours par la suite.
Et donc là, vous avez parlé d'un projet d'assainissement, par exemple. Donc ça veut dire que vous travaillez en partenariat quelquefois avec d'autres associations ?
Localement, on travaille forcément avec d'autres associations. En fait, quand un projet se met en place, l'idée, c'est de pouvoir faire un diagnostic des besoins sur place et de voir avec quelles associations locales on peut soutenir le projet et accompagner pour que justement cette association ensuite soit autonome et puisse perpétuer la réponse aux besoins.
Nous savons que pendant la semaine des droits de l'enfant, vous organisez le petit festival des droits de l'enfant. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, du coup, dans le cadre de ces actions-là, on a entre autres un partenariat avec un accueil de loisirs, donc en particulier les 4-6 ans, qu'on voit une fois par mois toute l'année scolaire. Et l'idée, c'est de pouvoir leur montrer qu'il existe une convention internationale des droits de l'enfant, et de manière ludique, et de comprendre que en fait, tous les enfants dans le monde ont les mêmes besoins. Ça permet aussi de voir les points communs qu'on partage à travers les pays, et les différences, même malgré les différences culturelles ou de développement économique. Et dans le cadre de la journée des droits de l'enfant, qui est en novembre, on fait un grand festival où là on invite d'autres accueils de loisirs de la ville et on essaye de faire en sorte d'ouvrir à une tranche d'âge plus large, donc de 2 à 7 ans, pour essayer de découvrir de manière ludique les différents droits. Donc souvent on en sélectionne une dizaine et à travers un pays pour aussi avoir une découverte interculturelle. Donc là par exemple le dernier c'était à travers le Brésil et ça permettait nous de pouvoir s'appuyer sur des photos, des témoignages qu'on a au sein de l'association et après de mêler aussi les connaissances qu'on les accueille de loisirs en pédagogie, en exemple de jeu pour les tout petits.
Et quelqu'un d'extérieur justement qui voudrait s'engager chez Essor, est-ce qu'il peut ?
Oui, bien sûr. Alors, on a toutes ces actions que je décris en France n'auraient pas lieu sans bénévoles, à la fois en éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, où j'ai 3 bénévoles qui m'accompagnent à la fois dans la conception des ateliers et l'animation dans les écoles. Et après, pour d'autres événements annuels, comme pendant le Festival des Solidarités, on organise un spectacle d'improvisation. Et en avril, là, on a une vente de créatrices. Ce genre d'événement sollicite beaucoup de main-d'œuvre. Et effectivement, dans ces cas-là, on est toujours preneur de main-forte. Et après, tout au long de l'année, on est en contact avec des lycéens ou des étudiants qui souhaitent s'initier un peu à la gestion de projet. On leur propose, s'ils le souhaitent, de monter un projet dans le but aussi de faire découvrir aussi Essor à d'autres personnes. Et on les accompagne dans le montage de ce projet-là.
Solidaire, une émission en partenariat avec Lian Coopération.
Cerise et Laure, on vous laisse la parole.
Aurélie, pensez-vous que la sensibilisation à l'éducation et à la citoyenneté et à la solidarité internationale, telle que pratiquée par Essor dans les écoles, favorise la prise d'initiative des jeunes avec qui vous travaillez et qui voudraient créer une association ?
Alors, oui, absolument. Alors, ce qu'on a vu dans les différents reportages, c'est... Enfin, dans le premier, le micro-trottoir, et le deuxième avec Essor, c'est vraiment différent. C'est qu'on a l'impression, dans le micro-trottoir, que la citoyenneté, c'est apprendre les devoirs du citoyen. Et nous, on est d'accord, hein, oui, il faut connaître ses devoirs, connaître ses droits, et être poli, et savoir ce qui est interdit par la loi. Mais pour nous, être citoyen, c'est avant tout agir, parler, réfléchir et convaincre. Et du coup, ce que propose Essor, c'est aussi des actions qu'on met en place chez nous, c'est de dire, on va aller parler aux jeunes, les sensibiliser. Certains seront touchés par des sujets, d'autres par d'autres sujets. On ne peut pas tous être profondément touchés par l'ensemble des thématiques révoltantes qu'on croise à longueur de journée. Mais chacun d'entre nous, à partir de tout petit à ces sujets de sensibilité. Effectivement, Essor, comme beaucoup d'autres associations et beaucoup d'autres acteurs de la société civile, accompagne les jeunes à les découvrir, à les travailler, à y réfléchir et ensuite à agir. Quand, à la fin de l'entretien, elle explique qu'effectivement, elle accompagne les jeunes qui auraient des projets à les mettre en place et à les lancer dans la méthodologie de projet, on est sur la même méthode. De dire, voilà, vous avez envie de faire des choses, je ne vais pas vous donner des choses à faire, mais par contre, je vais vous accompagner dans la démarche. Je vais vous donner les moyens d'eux. Je vais vous laisser vous planter si vous avez besoin de vous planter. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Et puis, je vais vous accompagner. Je vais vous permettre de découvrir des partenaires, etc. pour que vous puissiez réaliser. C'est pour moi, c'est la démarche qu'on met en place dans tous les dispositifs qu'on mène, dans les actions qu'on mène et dans la plupart de nos partenaires associatifs pour une citoyenneté qui soit active et pas juste une leçon qu'on apprend ou un policier qui vient dire à l'école ce que c'est la citoyenneté.
Et vous, est-ce que vous avez déjà travaillé avec Essor ?
Alors, moi personnellement, non. Par contre, moi j'accompagne des groupes de junior associations. Donc junior associations, c'est des associations pour les mineurs qui ne sont pas des associations loi 1901 mais qui sont presque une vraie association qui sont sur toutes thématiques diverses et variées. Et du coup, dans le Nord, on a une bonne cinquantaine de junior associations cette année. Et certaines, les années précédentes, ont travaillé avec Essor. Ou alors sont nées après l'intervention d'Essor dans certains établissements.
Et on a vu que Essor est tourné vers l'international. Mmh. Est-ce que les junior associations avec lesquelles vous travaillez ont déjà participé à des projets à l'international ?
Oui, pas toutes. J'ai des projets très très variés. J'ai une junior association, la première que j'ai rencontrée quand j'ai démarré, qui fait du Rubik's Cube, mais ça n'a rien à voir avec l'international. Et pourtant, on pourra en reparler parce que au niveau acquis en citoyenneté, c'est très important ce qu'ils ont fait. Mais oui, on a des projets à l'international qui se créent. Là, pour vous donner l'exemple actuel, on a une junior association qui prépare un départ pour une solidarité internationale au Bénin. C'est des élèves de 4e. On a une junior association qui va faire un gros travail pour partir à Barcelone. On a des junior associations l'année dernière, deux qui sont allées aux États-Unis. Et on a une junior association qui, elle, a un parcours un petit peu atypique qui peut vous intéresser. Ce sont les explorateurs de l'engagement. Vous en avez déjà entendu parler, d'accord. C'est bien. Donc, pour rappel, dont le projet, c'est d'aller faire un tour de l'Europe et d'aller découvrir comment dans les autres pays on est citoyen avant 18 ans ou alors comment on est accompagné à le devenir très très rapidement. Et du coup, on est allé avec eux en Grèce, en Allemagne, en Suède, au Maroc, en Belgique. Et puis là, ils sont en train de préparer la Roumanie et le Portugal. Voilà, et ils veulent créer un label pour que tout ce qu'ils ont découvert comme bonne pratique à l'international, on puisse se le réapproprier en France. Donc, c'est vraiment de la coopération dans les différents sens. D'ailleurs, rendez-vous, normalement, si tout va bien, avril 2019, gros festival pour le début du label des explorateurs. On vous invitera, évidemment.
On se retrouve après Ridan et son titre Ulysse.
À tout de suite.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Quand reverrai-je neige le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux, que des palais romains, le front tout d'acier. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. De mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Écoutez Solidaire sur RPL.
Nous sommes de retour sur RPL pour notre émission Solidaire. Nous avons parlé d'éducation à la citoyenneté grâce à l'école avec l'intervention de Camille Ribier de l'association Essor. Mais l'école n'est pas le seul moyen d'éduquer. T'en penses quoi, Juliette ?
En effet, les structures d'éducation populaire sont aussi des lieux où l'on apprend aux enfants à vivre ensemble et à s'engager. Nous écoutons tout de suite Alissa qui va nous parler des éclaireuses et éclaireurs de France.
Maintenant, je vais vous parler des éclaireuses et éclaireurs de France, aussi appelés les scouts laïcs. Ils s'inspirent des principes du scoutisme qui sont adaptés à chaque tranche d'âge. Cette pédagogie propose l'éducation par l'action, une vie proche de la nature, ainsi que l'éducation à la citoyenneté. Souvent divisés en équipes, cela permet à chacun d'avoir des responsabilités, même pour les plus petits. En fonction de leur âge, on apprend un peu à devenir autonome, responsable et solidaire. Les premières découvertes du scoutisme commencent avec les lutins, les enfants de 6 à 8 ans. Ensemble, ils découvrent les premiers jeux collectifs et des chants. La prochaine tranche d'âge, ce sont les louveteaux, les enfants de 8 à 11 ans. C'est un âge où il est important pour l'enfant de se dépenser. Les enfants font donc des activités autour d'un imaginaire. Ce support permet aux enfants de vivre les aventures encore plus évanouies. La nature est toujours un lieu privilégié pour les activités des louveteaux. Ils commencent à la protéger avec soin. L'unité des éclaireuses et éclaireurs regroupe les jeunes de 11 à 15 ans. Cet âge permet aux jeunes d'avoir un sens des responsabilités, en même temps que développer leur capacité à vivre en groupe. Tout au long de l'année, les jeunes y sont divisés en équipages et réalisent des projets. Ces équipages y se regroupent en conseils pour prendre des décisions pour leurs futurs projets. Pendant ces conseils, cela permet à chacun de prendre une part de responsabilité, et cela apprend aux enfants la démocratie. Les aînés des scouts laïcs sont les jeunes de 15 à 19 ans. Ils apprennent à devenir citoyens. Chaque jeune est élu remplir une responsabilité. La démocratie, la solidarité, la laïcité, l'ouverture sur le monde et le respect de l'environnement sont des valeurs que les jeunes cultivent. Au fil de l'année ou lors du camp, les enfants et les jeunes découvrent, agissent et vivent avec les aventures. Partir en randonnée, cuisiner un repas, dormir à la belle étoile, monter un spectacle ou réaliser un four solaire, tout cela sont des activités que les scouts font pendant le camp. Et encore, le scoutisme réserve énormément de choses pour chacun d'entre nous. Il faut savoir que le scoutisme ne peut pas se créer tout seul. Pour faire vivre pleinement cette aventure aux jeunes, il faut aussi que les adultes s'engagent. Si le mouvement vous intéresse, rendez-vous sur le site www.eedf.fr.
Voilà un beau projet associatif qui permet d'éduquer tout en s'amusant. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose.
Oui Zia, nos collègues d'Unicité et les volontaires néo-citoyens utilisent eux aussi le jeu pour apprendre aux enfants à vivre ensemble et à se respecter.
Ah oui, c'est ça. Et justement, on écoute Adam et Maxime, néo-citoyens à Unicité, au micro d'Ilam et Cerise.
Tout d'abord, on est dans une école à l'année avec des enfants élémentaires, entre autres. Et on développe à travers différents projets d'activités, par exemple l'égalité filles-garçons, moins de violence à l'école, un esprit de solidarité, d'entraide, etc.
Et également, on fait des jeux coopératifs. Donc on les fait durant les temps de récréation, parfois pendant les temps de classe et aussi pendant la pause méridienne. Donc la pause méridienne, c'est le midi. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce projet ?
Alors, moi, ce qui m'a motivé, c'est vraiment être dans le milieu scolaire, parce que j'ai eu des expériences dans le milieu scolaire qui m'ont marqué. Du coup, j'ai voulu continuer dans ce domaine-là et faire un projet qui me correspond. Donc moi, par exemple, j'ai pris le sujet de l'harcèlement, parce que j'ai eu ma petite sœur qui a été victime d'harcèlement. Du coup, je voulais vraiment faire de la prévention dans les écoles primaires, parce que je pense que c'est important pour les jeunes de comprendre que le harcèlement, ça peut vraiment détruire une personne et aussi ses proches.
Pour ma part, j'ai voulu m'engager avant tout pour être utile aux autres, mettre mes capacités, mon temps au profit des valeurs et des principes qui sont malheureusement trop souvent oubliés ou du moins bafoués à travers certaines générations et comportements. Et donc aussi le milieu scolaire, je trouvais que c'était un milieu très adéquat pour justement faire valoir ses principes et ses valeurs et remettre un peu d'ordre dans tout ça, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte aux enfants, ce projet ?
Personnellement, je pense que ça leur apporte beaucoup de choses. Pour commencer, ça apporte un divertissement pendant les temps de récré, par exemple, parce qu'ils sont là à devoir être sérieux tout au long de la journée avec leur maîtresse ou leur maître. Puis ils arrivent en récréation, ils sont libres. Et nous, on est là, on leur apporte ce petit moment de divertissement. Aussi, ça leur apporte des personnes qui sont pas... On n'est pas perçus comme des professeurs ni comme des animateurs. On est un peu entre les deux, vu que nous, on est là pour leur dire... leur apprendre de vivre ensemble. Mais on n'est pas là non plus pour leur imposer des règles, être strict. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment une relation particulière avec nous.
Je pense qu'effectivement, ça leur apporte une ouverture d'esprit plus large, en tout cas. Et c'est vrai que ça leur permet aussi de voir les choses autrement. On voit par exemple qu'un enfant est capable de dire à la récré « Non, mais attendez, retenez ce qu'a dit quand même les volontaires en service civique. » Voilà, quand ils voient une bagarre, et au lieu de toujours s'insulter ou de se frapper, bah, ils viennent voir un adulte, donc soit un enseignant, un animateur, enfin peu importe. Ou ils essaient de plus se parler. C'est là où on voit aussi le résultat du travail est mené pendant les mois qui ont précédé. Effectivement, ça leur apporte aussi un bien-être, j'ai envie de dire, mais personnel, dans le sens où ils n'ont plus besoin de se battre et d'arriver à des situations assez conflictuelles et souvent mal digérées, voire mal réglées, voire même pas du tout, en fait. Il y a moins de rancœur aussi entre les élèves et il y a plus de sensibilité et de sincérité dans leurs actes et leurs paroles, et ça fait plaisir. Et donc ça nous fait plaisir, mais je pense qu'eux aussi ça leur fait plaisir et ils ont peut-être plus envie d'aller à l'école dans un esprit plus calme et plus paisible.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ?
Déjà, je trouve que c'est hyper valorisant. C'est une expérience vraiment, je dirais, magique. On n'a pas l'occasion de passer une année scolaire avec des enfants, de leur proposer des activités. Puis nous aussi, ça nous apporte aussi, donc ça, je vais partir un peu de la question, mais quand tu passes un entretien d'embauche aujourd'hui, les recruteurs voient qu'on évoque que tu as fait un service civique, ils sont en mode ah ouais, bah, tranquille le mec, quoi. Il a été motivé pendant 8 mois, donc c'est assez valorisant aussi pour la suite, pour une suite professionnelle, donc c'est assez utile pour la suite, quoi. C'est pas négligeable, quoi.
Bah, comme Maxime, mais je rajouterais que je suis plutôt fier de ce que je fais et que ça aide à avoir encore plus confiance en soi. Par exemple, j'ai des collègues qui ont vraiment peu de confiance en eux. Bah, Maxime aussi, je pense qu'il a ce genre de collègues et qui, on les voit, ils se libèrent, en fait. Franchement, ça nous tire vers le haut, quoi. Si on avait vraiment une petite estime de soi, ça nous pousse vers le haut.
Et je voudrais juste rajouter aussi que au-delà de la mission dans laquelle on est, le lieu où on y est rattaché, du coup, le fait d'avoir rencontré des gens au service civique, tous autour d'un même but qui est l'esprit de solidarité et de mécontentement autour de... Quand on voit certaines choses, ben on... ça, justement, ça booste, ça, c'est un peu une grande famille, quoi, c'est cool.
Est-ce que l'éducation à la citoyenneté, ça vous parle? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est important et que vous en faites?
Oui, bah, ça me parle, ça nous parle, parce que néo-citoyen, c'est complètement... c'est une mission qui est complètement là-dedans. Et donc l'éducation à la citoyenneté, c'est très important. Dès le plus jeune âge, justement, c'est pour ça que nous, on est là en école primaire. Je pense même qu'on pourrait le faire en maternelle. Et c'est très important pour que, quand ils auront notre âge, quand ils auront la vingtaine, comprennent que, quand ils étaient petits, s'ils ont mal agi, ils sauront pourquoi. Ils sauront qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on pourrait le régler. Et c'est, après, c'est un cercle. Ça veut dire que s'ils deviennent parents, ils pourront apprendre ça à leurs enfants. Et jusqu'au jour où leurs enfants ne feront presque pas d'erreurs à l'école, en tout cas en se comportant avec les autres, avec les autres personnes, les autres enfants. Après, les liens sociaux qui se créent au fur et à mesure où on grandit, ça pourra que être fort. Je dis fort, ouais, parce que si on est une mauvaise personne, il y a peu de gens qui vont nous fréquenter. Alors que si on est quelqu'un qui comprend dès le début qu'il faut agir comme ça, de la bonne manière, pour pas nuire aux autres et ni à soi-même, ça pourra devenir que des personnes qu'on a envie de avec qui parler, etc.
Effectivement, il y a un point très très fort à souligner, c'est dès le plus jeune âge, de telle sorte à ce que l'enfant grandisse avec un minimum de savoir vivre, de savoir être. Donc autour des mêmes valeurs et principes cités dernièrement. Donc voilà, c'est dès le plus jeune âge, il faut vraiment être dedans et évoluer avec ça de la meilleure façon possible et dans le meilleur environnement possible.
C'est Solidaire sur RPL.
Les néo-citoyens interviennent donc à l'école dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. En primaire, on organise également des sorties qui peuvent leur apprendre à mieux vivre ensemble. L'association Gaïa dispose d'un village sénégalais. Il est reconstitué à Lille, il propose aux enfants de devenir des citoyens sénégalais pendant une demi-journée. On écoute Alissa et Cerise.
Le centre Gaïa est un centre de formation et d'éducation à la citoyenneté ainsi qu'à la solidarité internationale. C'est une branche de l'association Le Partenariat. Ce lieu est unique en France et a été créé en 2006 pour sensibiliser tous les publics à la coopération internationale.
Aujourd'hui, nous voulons vous parler du projet fort du Centre Gaïa, Cap sur le Sénégal. Nous sommes allés dans les locaux, situés à Lille, et nous avons pu visiter le décor. Nous avons discuté avec les participants et la coordinatrice du projet. C'est un atelier d'immersion pour les enfants, jeunes et adultes. Ce projet est particulièrement apprécié par les écoles. Le participant joue le rôle d'un habitant d'une ville ou d'un village au Sénégal. Le point fort du jeu est la pédagogie active. Tout ce qui est mis en place nous permet de vivre un vrai voyage.
Et maintenant, on vous emmène avec nous au Sénégal. Nous passons les contrôles de sécurité et nous montons dans l'avion. Attachez bien vos ceintures.
Le pilote vient nous saluer et les hôtesses de l'air nous proposent des boissons. Pour que le voyage se passe plus vite, nous regardons un film sur le Sénégal. Ça y est, nous sommes arrivés.
Arrivés dans la ville, nous mettons des vêtements traditionnels et endossons ainsi notre rôle d'habitant. Chacun d'entre nous part à ses occupations respectives. L'épicière va préparer son magasin à l'arrivée des clients. Le garagiste termine la réparation d'un vélo et le postier prépare la distribution du courrier du jour.
Les animateurs du Centre Gaïa mettent en place un scénario avec des obstacles et des problématiques à résoudre. Le jeu dure 3 heures, ce qui nous permet de nous immerger totalement et de pouvoir vivre plusieurs épreuves du quotidien au Sénégal. Cette animation permet aux jeunes d'avoir une comparaison de vie en France et au Sénégal.
La coordinatrice du Centre Gaïa, Bénédicte Gilbert, nous a expliqué en avant-première un des scénarios proposés aux enfants. Comment faire quand la maison d'un habitant est détruite? Est-ce que tout le village va coopérer afin de reconstruire la maison et ainsi montrer sa capacité de vivre ensemble?
On va négocier. Alors, on va faire quelque chose,
Lors de notre visite, une classe de 5e du collège Victor Hugo de Somain était en pleine immersion. Pour avoir un retour, nous avons posé quelques questions à une professeure de SVT qui les accompagnait. Cette animation rentrait dans le cadre de leur projet sur l'eau et le développement durable. Elle a pu remarquer que les enfants étaient timides au départ, mais qu'ils se prêtaient très vite au jeu. Grâce à la pédagogie active, ils s'adaptent rapidement à une culture différente.
Maintenant, nous sommes de retour en France. Si ce mini-voyage vous a plu, n'hésitez pas à aller sur le site du Centre Gaïa, www.lepartenariat.org, pour plus d'informations.
Maintenant, place à Yannick Noah qui nous chante aux arbres citoyens.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. De l'air en bas, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot, c'est vrai la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
Solidaire, une émission en partenariat avec l'IAN Coopération.
De retour sur RPL, nous allons maintenant parler d'environnement. En effet, apprendre à vivre ensemble, c'est important. Et c'est aussi prendre soin de son environnement.
Eh oui Juliette, trier ses déchets, respecter les espaces publics, c'est aussi ça être citoyen.
En effet, l'association des Blongios propose des chantiers nature aux jeunes pour sensibiliser à l'entretien des espaces publics. On les écoute au micro de Johan et Alissa.
Alors, l'association, elle a 26 ans cette année, donc les origines remontent à 1992. C'était un petit groupe d'amoureux de la nature qui se souciait du sort du plus petit des hérons, qui s'appelait le Blongios nain, et qui constatait que son milieu naturel était en danger, et donc forcément le Blongios l'était aussi, et se sont réunis sur leur temps libre pour aller... essayer de régler un peu cette situation problématique. Et c'était du côté de Saint-Omer à l'époque. Et vu que c'était quand même assez sympa et plutôt efficace, ils se sont constitués en association et en hommage aux premiers bénéficiaires des chantiers, ils ont appelé ça les Blongios.
Et en quoi l'éducation à l'environnement est-elle si importante aujourd'hui ?
Parce que c'est important que chacun se saisisse un peu de cette problématique-là, que si on n'y réfléchit pas maintenant, on ne sait pas exactement les conséquences. Enfin, on a déjà une idée des conséquences que ça peut avoir dans un avenir plutôt proche. Et l'éducation à l'environnement, ça permet à chacun de s'approprier ces problématiques et puis de se sentir un peu responsable de la préservation de la nature et de son respect.
Comment sensibilisez-vous le public à l'environnement ?
Bah nous, on leur propose une action concrète, en fait. J'ai envie de préserver, qu'est-ce que je peux faire ? Donc là, c'est vraiment, je prends un outil dans mes mains et je réalise quelque chose de concret pour la nature. Donc on essaye de passer un peu du discours intellectuel au vraiment passage à l'acte, de réaliser quelque chose de concret pour la préservation de la biodiversité.
Et quelles actions sont menées dans les Hauts-de-France ?
Quasiment la majorité de nos actions sont menées dans les Hauts-de-France. Nous, c'est donc du chantier de bénévoles sur des sites naturels de la région. Donc ça va être sur le littoral, ça va être dans la Vénois, ça va être même au cœur des villes, dans les citadelles, vraiment tout type de milieux sur lesquels on a repéré des enjeux ou sur lesquels il y a des problématiques, et l'intervention des bénévoles ou des groupes constitués, par exemple des écoles ou des IME, cette intervention va pouvoir atteindre un objectif de préservation d'espèces ou de milieux particuliers.
Avec quelles structures et associations êtes-vous en partenariat pour l'organisation des chantiers nature ?
On a plusieurs types de partenaires. On a des partenaires évidemment techniques, donc qui sont les gestionnaires de sites naturels. Par exemple, ça va être les parcs naturels régionaux, ça va être les conservatoires d'espaces naturels, tout type de structure qui a en gestion un site. Donc ça, ce sont les partenaires avec lesquels on organise des chantiers qui, eux, ont une programmation de travaux à réaliser. Donc nous, on travaille avec eux dans ce cadre-là. On a les partenaires pédagogiques avec lesquels on organise des chantiers de groupe constitués et qui, eux, ont un objectif donc pédagogique en plus de l'objectif de préservation de la nature. Donc ça va être par exemple des écoles, des lycées, ça va être des centres sociaux, des IME, des structures qui ont en charge en fait un public spécifique. Et enfin, évidemment, on a les partenaires financiers. Donc qui, eux, soutiennent l'action en nous donnant des subventions ou des appels à projets, enfin, auprès desquels on répond aux appels à projets. Donc là, ce sont les collectivités publiques, ce sont des fondations privées, et puis évidemment, il y a aussi le soutien des bénévoles par leur adhésion à l'association.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu une journée type d'une de vos actions, par exemple ?
Alors, la journée type, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de travail en amont de la journée de chantier en elle-même, mais donc la journée type de chantier, donc le lieu de rendez-vous, évidemment, à telle heure on se retrouve tous au même endroit. On organise un covoiturage pour se rendre sur le site du chantier. Une fois arrivé sur le site, il y a toujours un technicien qui est là, quelqu'un de la structure gestionnaire du site, qui va pouvoir expliquer un peu pourquoi on va faire les travaux du jour, quels sont les enjeux du site, quelles sont les particularités du site, des milieux, des espèces qu'on va y trouver. Et évidemment, une présentation technique des travaux à réaliser, comment obtenir les outils pour ne pas se blesser, pour être efficace aussi. Ensuite, c'est parti, le groupe de bénévoles se met au boulot, toujours dans une très bonne ambiance. Il y a cet aspect convivial qui est très très important. Comme on travaille qu'avec des outils manuels, il n'y a pas de bruit. Enfin, c'est plus facile de discuter, d'échanger des astuces sur le maniement de l'outil ou juste de discuter sur ses parcours particuliers. Évidemment, il y a une pause de midi. Donc ça aussi, ça renforce un peu ces liens-là. Et puis ensuite, l'après-midi, c'est reparti sur la suite du chantier. Et en fin de chantier, il y a toujours une visite de site. Il y a toujours, pour remettre un peu en perspective les travaux qu'on a réalisés, on visite le site en compagnie du gestionnaire qui nous explique quelle gestion il organise sur l'ensemble de son site et comment les travaux réalisés pendant la journée prennent place dans ce dispositif-là. Ça, c'est pour une journée. Parfois, ça se dure sur 2 jours avec une soirée entre bénévoles qui peut aussi amener à une certaine convivialité et création de liens amicaux.
Comment pouvons-nous participer à l'une de vos actions ?
Alors, on a un calendrier qui est mis en place là, par semestre, 2 par an, qui reprend toutes les dates des chantiers organisés. Donc, en gros, il y en a 1 par semaine, c'est pendant le week-end, ou parfois pendant les vacances scolaires pendant la semaine. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, il y a les numéros à appeler, soit directement le bureau chez ici, et c'est moi qui vous réponds, soit c'est directement un bénévole qui, lui, coordonne le chantier, qui prend en charge les inscriptions, la logistique du chantier.
Vous écoutez Solidaire sur RPL.
Toujours avec nous dans les studios, Aurélie Kopitsch, coordinatrice d'engagement jeunesse et démocratie participative à la Ligue de l'enseignement.
En quoi l'éducation à l'environnement est-elle affiliée à l'éducation à la citoyenneté ?
Belle question. Comme je le disais tout à l'heure, l'éducation à l'environnement est l'une des thématiques de citoyenneté qui est fortement présente aujourd'hui, forcément, puisqu'elle est l'un des enjeux principaux de notre génération. Je dis notre, on a presque le même âge, allez, admettons-le. Donc forcément, effectivement, s'engager pour le respect de l'environnement, pour la protection de la nature, pour la protection de la planète, c'est une forme d'engagement, c'est une forme de citoyenneté. Elle n'est pas unique, mais elle est primordiale aujourd'hui. C'est primordial de pouvoir avoir des personnes qui en parlent et qui mettent en place des actions. Et ce qui est intéressant dans le témoignage ici, c'est le moment où elle prévient, enfin où elle dit que on apprend par le faire. C'est beau, enfin on entend beaucoup parler de problématiques de climat, on entend beaucoup d'alertes, on en parle beaucoup. Et puis beaucoup de citoyens se sentent assez impuissants face à ça, en disant voilà, c'est pas de notre ressort, de toute façon on est fichu et de toute façon c'est pas à nous mais aux grandes entreprises et au pouvoir décisionnaire de faire quelque chose. Et là, par la sensibilisation, on montre et on apprend que chacun a sa place, petit citoyen de 2 à 90 ans, peut avoir un rôle à jouer, que ce soit sur une action de création unique ou sur des actions répétées de protection.
Et quels sont d'autres moyens de sensibiliser le public à l'environnement ?
D'autres moyens qui existent et qui sont mis en place. Alors il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'interventions auprès des jeunes qui sont faites par des associations partenaires et qui vont permettre, par exemple, de calculer l'empreinte carbone dans la maison, dans le centre, dans l'école, etc. pour que les jeunes puissent réfléchir, puissent se rendre compte aussi de leur impact sur la planète. Nous, on accompagne des jeunes qui décident de s'organiser dans des conseils de vie collégienne ou des conseils de vie lycéenne ou des conseils municipaux de jeunes, etc., et qui décident de prendre à bras le corps cette thématique pour réfléchir à des projets accessibles, réalisables au niveau de leur environnement, donc que ce soit le collège, le lycée, la ville, etc., sur ce qu'ils peuvent mettre en place. Et donc, on accompagne l'interconnaissance entre jeunes qui ont mis déjà je dis jeunes parce que c'est mon corps de métier, mais en fait, c'est pas que jeunes, c'est gens. Des gens qui ont déjà mis en place des actions et d'autres qui ont envie, qui puissent discuter, échanger, se donner les méthodes qu'ils ont utilisées, analyser leurs pratiques. On va avoir, par exemple, là j'ai des jeunes de mon réseau qui créent des systèmes d'échange locaux sur un territoire. Des jeunes qui mettent une boîte à dons dans leur établissement scolaire. Des jeunes qui travaillent sur des jardins partagés. Plein d'actions qui sont finalement pas si difficiles que ça à mettre en place, qui peuvent être, trois copains de 16 ans peuvent le faire. Et oui, avec un petit peu d'accompagnement peut-être, mais peuvent le faire. Et donc tout ça, c'est de la sensibilisation par le faire et par les pairs, ce qui me semble hyper important.
Vous avez écouté les Blongeaux il y a quelques minutes. Ce sont des acteurs d'éducation à l'environnement, n'est-ce pas, Zia ?
Tout à fait, Juliette. Et cela me fait penser au jardin de chlorophylle à Roubaix. C'est un espace dédié aux groupes scolaires et aux habitants qui proposent des activités en rapport avec la nature, le respect de l'environnement. On écoute Johan et Ilham qui nous en parlent.
Le jardin de chlorophylle est un lieu de vie à Roubaix dédié à la nature et à la biodiversité. Il existe depuis près de 20 ans. C'est l'association ARI, Association Roubaisienne d'Insertion, qui gère ce site pédagogique.
Le jardin possède un labyrinthe, un espace pique-nique, une mare et des potagers. La maison est construite avec des matériaux écologiques, ainsi il limite l'impact énergétique, à savoir que le jardin possède toutes les espèces d'arbres et d'arbustes de la région et de la plupart des herbacées.
Le jardin de chlorophylle intervient sur divers projets. Tout d'abord, il vise à améliorer l'accueil du public. Du coup, ils ont engagé une personne en service civique pour identifier les nouveaux adhérents et leur expliquer le projet.
Ils essayent d'impliquer davantage les habitants en leur communiquant un maximum d'informations sur leur nouvelle page Facebook. D'ailleurs, ils ont aussi créé une nouvelle enseigne afin de repérer au mieux ce lieu de vie.
Ils permettent ainsi à des écoles, des centres sociaux, des EHPAD de leur proposer des animations et de créer un projet ensemble autour du développement durable. Ils proposent différents thèmes comme le jardinage, la biodiversité, l'habitat durable et les déchets.
Les habitants construisent eux-mêmes certains projets comme l'atelier cuisine nature afin de préparer un bon repas avec les fruits et légumes du jardin chlorophylle. Ils organisent aussi des ateliers familiaux pour les jeunes parents et pour tout le monde les premiers samedis matins du mois.
Alors si vous habitez à Roubaix, que vous avez envie de participer aux animations, de cultiver une parcelle de jardin, de vous investir pour le développement durable, vous pouvez aller vous renseigner sur place au 315 Grand Rue à Roubaix ou sur leur page Facebook Le Jardin de Chlorophylle.
Il y a de quoi se mettre au vert.
Je n'aurais pas dit mieux, Zieux. Aurélie Kopic de la Ligue de l'Enseignement est toujours avec nous. Oui. Ilham, Laure, on vous écoute.
Bonjour Aurélie Kopic, vous êtes coordinatrice engagement jeunesse et d'éducation participative à la Ligue de l'Enseignement. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, alors donc la Ligue de l'Enseignement, c'est une vieille association qui a 152 ans en 2018 et qui travaille depuis toutes ces années à développer des objectifs et des valeurs telles que la citoyenneté pour tous, l'éducation populaire, la démocratie et la laïcité. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Ensuite, sur l'organisation, donc la Ligue de l'Enseignement, c'est une association nationale, et puis à chaque département, sa fédération départementale de la Ligue de l'Enseignement et ses actions propres. Certaines actions qui sont nationales et qu'on reprend dans nos fédérations, et d'autres qui sont propres. En ce qui nous concerne sur le Nord, on a donc une fédération qui a son siège social à Lille. Et parmi les actions qu'on mène, il y a plusieurs choses, dont le BAFA BAFD, qu'on met en place pour la formation des futurs animateurs et directeurs. Il y a aussi un pôle vacances où on accompagne des jeunes en classe de découverte, en colo, en vacances en famille, et où on met en place l'apprentissage à la citoyenneté par le biais de programmes pédagogiques adaptés. Ensuite, j'ai des collègues qui travaillent dans un pôle qui s'appelle le pôle éducation et qui mettent en place des animations de sensibilisation et de citoyenneté dans plein de publics. Ça va de l'école maternelle à des personnes de plus de 55 ans, en passant par des personnes en prison, en passant par les centres sociaux, en passant voilà, très largement comment on peut développer l'esprit de citoyenneté et l'envie de s'engager. Et puis, du coup, mon service, donc dans mon service, qui s'appelle le pôle vie associative, on travaille à l'accompagnement de toutes les associations qui sont affiliées à la Ligue de l'Enseignement et qui, du coup, s'affilient parce qu'on va développer ensemble les mêmes valeurs sur le territoire. On a, sur le Nord, plus de 800 associations qui sont affiliées à la Ligue de l'Enseignement et avec lesquelles on travaille au quotidien. Et on travaille avec elle sur la formation des bénévoles, sur comment les aider à mettre en place leurs projets associatifs, comment les outiller, comment faire du réseau entre associations. Et moi particulièrement, je travaille sur la partie engagement jeunesse, donc comme je le disais tout à l'heure, avec des jeunes, avec des collègues sur le service civique. On met aussi en place des services civiques par intermédiation pour nos associations affiliées, mais ça rappelle à votre dernière émission. Et puis on travaille avec des dispositifs qui permettent à des jeunes à partir de 11 ans d'être acteurs, citoyens actifs, donc junior association dont je parlais, mais pas que, des conseils municipaux de jeunes, etc. On essaye d'avoir comme mission l'envie et l'ambition d'aider les jeunes à créer ce qu'ils souhaitent, comme ils le souhaitent, mais en allant toujours chercher un peu plus loin et en allant les titiller un petit peu parfois dans le débat pour qu'ils aillent plus loin dans ce qu'ils souhaitent. Enfin, la dernière chose, c'est l'accompagnement des conseils citoyens. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les conseils citoyens, c'est un dispositif qui existe depuis 2015 dans les quartiers qu'on appelle politique de la ville, donc les quartiers prioritaires, où depuis 2015, on est obligé d'avoir un conseil. oui, l'État oblige la création d'un conseil de citoyens, du coup des personnes qui n'ont comme projet commun que le fait d'habiter dans le même quartier et de vouloir améliorer. Et du coup, notre rôle, c'est ben, de leur dire « Ok les gars, vous voulez participer, mais maintenant comment on fait, comment on s'organise pour que, en fait, on puisse accompagner des collectifs à se structurer et ensuite à agir ».
Vous travaillez avec des associations de jeunes. Comment les trouvez-vous ? Est-ce que vous allez les chercher ou est-ce qu'ils viennent à vous ?
Les deux. Ça fait 20 ans que le dispositif junior association existe. Moi, il y a 20 ans, j'avais l'âge de faire une junior association. Non. non. Il y a quelques années, j'avais l'âge de faire une junior association. Je ne connaissais pas. C'est encore peu connu. Et dans le Nord, depuis 2009, on met les moyens et on travaille dur faire connaître ce dispositif parce qu'on est convaincu de ce qu'il peut apporter aux jeunes qui créent leurs juniors associations. Donc il y a les deux. Il y a effectivement le fait que ben, on va présenter à des jeunes dans des établissements, mais aussi dans des structures de jeunesse, voilà, le dispositif, etc. Forcément, à chaque fois qu'on le présente à des jeunes qui nous disent « Mais on peut faire ça, nous ?» Vraiment, moi, je peux signer un chèque et être présidente d'une association, mais j'ai 12 ans. Ouais. Forcément, ça donne à chaque fois des envies, des idées. Donc rapidement, il y a des projets qui se créent. Certains qui vont durer, d'autres qui vont s'essouffler, on le sait. On commence maintenant à avoir des juniors associations qui font parler d'elles. Tout à l'heure, quand je parlais des exploses, vous avez tous fait un oui de la tête, comme ça veut dire que vous en avez entendu parler. Donc on est aussi interpellés. J'ai des établissements ou alors des jeunes directement qui m'appellent et qui me disent « Oh là, on voudrait créer notre junior asso, comment on fait ? Viens nous aider. »
Y a-t-il des critères pour que vous accompagniez des associations en particulier ?
Sur les junior associations ? Alors non, toutes les demandes de création de junior associations du Nord sont traitées par la Ligue de l'enseignement. Puisque junior association, c'est un dispositif qui est national, qui est régi par une association qui est le Réseau national des junior associations à Paris. Et ce réseau national, il a été créé par un collectif, la Ligue de l'enseignement, le collectif des centres sociaux et le collectif des maisons des MJC, maisons de la jeunesse et de la culture. Du coup, c'est à Paris que tout se passe et que c'est à Paris qu'on donne les autorisations de création et d'habilitation des juniors asso. Et du coup, Paris a défini dans chaque département un relais départemental parmi du coup, les collectifs qui l'ont créé. Pour le Nord, c'est la Ligue. Donc pour le Nord, c'est moi. Forcément, n'importe quel jeune qui va démarrer un dossier va tomber sur moi à un moment donné. On les accepte tous, on les accompagne tous. Les seules raisons pour lesquelles on n'habiliterait pas un dossier, c'est pour des parties administratives où on réaccompagnerait, où ça prendrait du temps d'avoir toutes les parties administratives, mais c'est rare puisque le dossier est simplifié, ou alors pour des questions de valeur. Voilà, si j'ai un petit groupe de jeunes qui viennent pour créer une association, pour tuer des petits chats le dimanche après-midi, on va peut-être en reparler un petit peu et j'accompagnerai peut-être pas, je sais, voilà. Exemple.
Une fois l'accompagnement terminé, que deviennent les associations ?
Alors, ça dépend. On a trois possibilités. Quand un projet en junior association se crée, soit à la fin du projet, la junior association se clôture. Voilà, le projet était unique, c'était un one shot. Ils ont réalisé le projet, c'est fini, on n'en parle plus et puis on clôture la junior association. Ok, elle meurt de sa belle mort, tout va bien. Soit le projet perdure et puis les jeunes vieillissent et la donnent, entre guillemets, la suite du projet à d'autres jeunes. Et donc la junior association reste et les membres tournent dans la junior association. Ou enfin, il y a des junior associations qui vieillissent avec ses membres et qui deviennent des associations loi 1901 et continuent leur chemin en association loi 1901. Alors c'est pas tout pile à l'anniversaire, aux 18 ans de l'ensemble des membres que on leur dit bye bye, débrouillez-vous et faites vos statuts pour une asso loi 1901. On les accompagne, ça veut dire qu'on donne la possibilité encore pendant 2 ans, quand on a été une junior association, quand on arrive à la majorité, encore pendant 2 ans d'être accompagné avec un statut junior association majeure, le temps qu'on les accompagne à la création de l'association loi 1901.
Vous travaillez avec les explorateurs de l'engagement. Qu'est-ce que c'est ?
Ah bah, je l'ai déjà dit. je le redis. Donc, les explorateurs de l'engagement, c'est un projet super ambitieux qu'il faut absolument suivre. Des groupes de jeunes de Tourcoing, accompagnés par le Collège Lucie Aubrac, le lycée Gambetta de Tourcoing et la Maison des associations de Tourcoing, avec la Ligue de l'enseignement. Des jeunes qui, à un moment donné, il y a... un an et demi, se sont dit « Ok, on fait des débats sur la citoyenneté, c'est bien, c'est sympa, mais en fait, être citoyen en France avant 18 ans, ça paraît pas terrible. » Et qui nous ont dit bah, « Aurélie, comment ça se passe dans les autres pays ?» Et on a dit bah, « Je sais pas. » On a dit bah, « Je sais pas » et on leur a dit bah, « Allez voir. » Donc, ils ont monté le projet d'aller faire un tour de l'Europe pour aller rencontrer donc, des assos, l'éducation nationale dans les différents pays, etc. Et voir comment on préparait ça. Du coup, c'est une junior asso, c'est eux qui préparent tout et qui financent. Et à la fin, ils créent un label pour qu'on fasse tous de la citoyenneté active dans nos structures.
Et pour vous, pourquoi est-ce important d'éveiller les jeunes à la citoyenneté des autres pays ?
Pourquoi c'est important ? Parce que on réfléchit mieux quand on a des bases de comparaison. C'est important aussi de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde et que nos pratiques ne sont pas forcément les meilleures pratiques qu'il y en a d'autres ailleurs et que c'est en coopérant qu'on peut glaner des idées.
Merci.
De rien.
Avant de se quitter, voici quelques dates à noter.
Du 19 avril au 2 septembre, à Saint-Sauveur, il y a l'événement Hola Cuba, qui est une exposition sur la culture cubaine.
Du 27 avril au 5 mai, au Tripostal, il y a le festival de Sérimania. Il s'agit de 9 jours d'animation, de culture et de fêtes. Le 5 mai au matin, au Jardin de Chlorophylle, il y a une activité repiquage de légumes anciens.
Les Blongiaux proposent des chantiers de printemps. Le 2 juin, rendez-vous à la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités à Lille. Toujours le 2 juin, il y a la fête de la mare au Jardin de Chlorophylle.
J'ai juste une date à ajouter, c'est ce samedi, on a la rencontre départementale des juniors associations à Lille, à Los, au centre Jacques Prévert. Donc si vous voulez venir voir ce que c'est des juniors assos en vrai et voir des enfants de 12 ans monter des projets, n'hésitez pas à venir, c'est de 11h du matin à 22h pour un concert.
Voilà, l'émission s'achève. Nous tenons à remercier nos différents invités, Aurélie Kopitch, Camille Ribier, Adam, Maxime et Florence Joly.
Et nous remercions bien sûr Laure, Alissa, Ilham, Johan, Cerise et Agathe, sans qui l'émission n'aurait pas été possible.
Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt sur RPL pour de nouvelles émissions solidaires.
Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. À Maui, il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, s'aiment des milliers de graines de joie comme poussent ici l'aine. On m'avait dit petit gars là-bas on t'enlève tes chaînes, on te donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici tout petit après 9 mois à peine, te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Les odeurs remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Oh, oh, oh. Alors une petite fille aussi belle que nature me prit par la main et me dit suis cette aventure. On disait même oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses boucles dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Oh, 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 oh. Pour arriver enfin à ces rêves d'enfant qui n'ont pas de limite comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, où des fleurs volaient caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser en plaçant les gratte-ciels. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way.